Jeanne, chapitre 25. Conclusion. Le secret et le résultat de l'entretien de Jeanne et de ses trois amis restèrent secrets, et elle ne reparut au château qu'après le coucher du soleil. « Je n'ai jamais vu fille pareille !» dit Cadet en la voyant entrer. « Elle est moitié morte et elle travaille toujours. Tu veux donc t'achever bien vite, vilaine Jeanne ?»«
Pourquoi me dis-tu ça, vilain Cadet ?»
répondit Jeanne en souriant. « Est-ce que tu t'es tué toutes les fois que le grand cheval à mon parrain t'a jeté par terre ?»«
C'est égal !» dit Claudie en regardant Jeanne. « Je ne sais pas si tu es tombée ou non, je ne sais pas où tu as passé l'autre soir, mais tu as la figure et la bouche aussi blanches qu'un linge. Et si tu restais comme ça, on aurait peur de toi. Tu sembles la grand fade. »
Cependant, Jeanne retourna au champ le lendemain matin. Mais elle avoua à Claudie qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Mademoiselle de Boussac l'avait fait encore coucher dans sa chambre, et Jeanne, dans la crainte de réveiller sa chère demoiselle, s'était tenue silencieuse et calme, malgré le supplice de l'insomnie. Cependant, elle assurait n'avoir qu'un petit mal de tête. Peut-être que Jeanne était trempée pour supporter héroïquement la souffrance. Peut-être aussi qu'elle avait une de ces organisations exceptionnelles, si parfaites, que la douleur physique semble n'avoir pas de prise sur elle. Le médecin qui l'interrogea dans la matinée, un peu inquiet de sa pâleur et se méfiant du calme de ses réponses, demanda à Claudie ce qu'elle en pensait.
« Ah, que voulez-vous, monsieur ? » dit-elle. « Il y a du monde qui ne se plaint pas. Jeanne est de ceux qui ne disent jamais rien. » « Vous savez, on ne peut jamais dire s'ils souffrent ou s'ils ne sentent pas leur mal. »
Guillaume et Arthur étaient montés à cheval dès l'aurore pour aller inviter le curé de Toul à venir déjeuner au château. Cette matinée avait été choisie d'abord pour la rencontre entre Marcilla et M. Harley. Mais Marcilla avait envoyé un express la veille au soir pour dire qu'il avait à répliquer dans son procès et qu'il ne serait libre de quitter Guéret que dans 2 jours, lorsqu'il aurait gagné ou perdu sa cause. Le courage physique de Léon et sa dextérité à manier toutes sortes d'armes étaient assez connus pour qu'il ne dût pas craindre d'être accusé d'hésitation ni de lenteur volontaire, et il est certain qu'il était impatient de se voir en face de Sir Arthur. Mais il pensait que ce duel et les événements qui y avaient donné lieu se répandraient bientôt, que le blâme s'élèverait contre sa conduite, que le ridicule, qu'il craignait encore davantage, l'atteindrait peut-être. Il ignorait la chute de Jeanne. Il n'avait pas revu Raguet. Ce misérable, qui avait longtemps cherché à le servir malgré lui dans l'espoir d'une récompense, s'était vu déçu dans ses rêves de cupidité par l'aversion et le mépris de l'avocat. Il était indigné que ce dernier eût profité de ses avis sans les payer. Et comme il errait dans l'ombre, au carroir du Mont Barlow, au moment où Léon avait décidé Jeanne à venir à mon bras, il avait peut-être entendu de quelle manière l'avocat s'exprimait sur son compte. Il s'était tourné contre lui par vengeance, autant que par vénalité, et le fuyait désormais, craignant son ressentiment. Mais Léon ignorait tout. Il pensait que Jeanne se plaignait de lui en confidence à tout le château de Boussac, que tout le château le condamnait, que toute la ville le raillerait bientôt. Et, ne pouvant guère espérer de se laver de ce qu'il appelait son fiasco, il voulait au moins y apporter le contrepoids d'un grand succès oratoire. Il avait une belle cause, il tenait à la plaider, à la gagner avec éclat, et à cacher, comme il disait, les blessures de son amour-propre sous les lauriers de sa gloire. Guillaume, tout occupé de Jeanne et d'Arthur, paraissait avoir oublié Marcilla.
Il nourrissait contre lui des projets de vengeance plus ardents que ceux d'Arthur, mais il les cachait, luttant de dévouement dans le secret de son âme avec celui qu'il regardait déjà comme son frère, et qui, de son côté, poursuivait le même dessein de préserver les jours de l'ami, en se risquant le premier dans une rencontre périlleuse pour l'un comme pour l'autre. Monsieur Alain, après le déjeuner, fut emmené dans la prairie par les jeunes gens sous prétexte de promenade. Et tandis qu'Arthur, Guillaume et Marie faisaient le guet pour empêcher les deux charmoises de venir les troubler, le bon curé de Toul causait avec Jeanne derrière les rochers. Monsieur Alain avait réussi, dans la solitude, à étouffer le tumulte de ses pensées. Il avait fouillé tous les viviers de la montagne de Toul, et il n'avait pas retrouvé la source minérale engloutie par la reine des fades. Mais il n'en était que plus passionné pour cette découverte, et à force de gratter la terre, de recueillir des médailles et des légendes, il était devenu tout à fait antiquaire, c'est-à-dire qu'il avait oublié la jeunesse et ses agitations douloureuses. Il grisonnait déjà, et à 32 ans, il avait la tournure d'un vieillard. La fièvre marchoise avait contribué aussi à mettre de la gravité dans les allures et de l'abattement dans les pensées du pauvre et honnête pasteur. « Ma fille, disait-il à Jeanne, vous avez fait vœu de chasteté, de pauvreté et d'humilité, je le sais. Mais il n'y a pas de mais, monsieur l'abbé, répondit Jeanne. C'est un vœu que ma chère défunte mère m'a commandé de faire, lorsque je n'avais encore que 15 ans, et que vous m'avez permis de renouveler ensuite, tous les ans, à la fête de Pâques, en recevant la communion. Oui, mon enfant, votre premier vœu était un peu entaché de paganisme, car vous aviez juré sur la pierre d'Epnel, et c'est un tabernacle dont je ne puis reconnaître la sainteté. Ainsi, ce premier vœu est de nulle valeur à mes yeux, et ne vous engage pas, d'autant plus que la cause première était tout à fait illusoire et vaine, vous le savez maintenant. La cause? La cause, monsieur le curé, ce n'était pas une mauvaise cause. Ma mère pensait que les fades du Mont Barlow me voulaient du mal, puisqu'elle m'avait mis ces 3 pièces de monnaie dans la main. Et elle disait que pour m'en préserver, il fallait faire 3 vœux à la Sainte Vierge. Vœux de pauvreté à cause du louis d'or, vœux de chasteté à cause du gros écu, et vœux d'humilité à cause de la pièce de 5 sous. Voilà comme la chose s'est passée. Je ne peux rien y changer. Mais vous ne compreniez pas ces vœux? Vous étiez une enfant. Oh, que si, que je les comprenais bien. Mais vous les faisiez pour obéir à votre mère. Ça me faisait plaisir de lui obéir, et de plaire aussi à la Sainte Vierge, et de ressembler à la grande Pastoure, qui a fait avec ses vœux le miracle de chasser les Anglais de notre pays. Très bien, mais la Sainte Vierge, vous l'appeliez la grande fade, avouez-le, Jeanne. Qu'est-ce que ça fait que nous l'appelions comme ça, monsieur l'abbé? Ça ne lui fait pas déshonneur. Et vous pensiez aussi qu'elle vous aiderait à trouver le trésor et à donzer le veau d'or. Elle avait bien aidé la grande Pastoure à gagner des villes et des grandes batailles. Elle pouvait bien me faire trouver le trou à l'or, qui doit rendre riche tout le monde qui est sur la terre. Ce n'est pas par avarice que je souhaitais cela, monsieur le curé, puisque j'avais fait vœu de pauvreté pour moi. Ça n'était pas pour trouver un mari, puisque j'avais fait vœu de virginité. Ça n'était pas non plus pour faire parler de moi, puisque j'avais fait vœu d'être humble et de rester bergère. Mais maintenant, Jeanne, toutes ces rêveries de trésors, de guerre aux Anglais et de richesses universelles qui vous ont bercé si longtemps doivent être effacées. Vous voyez bien qu'il n'y faut plus songer. Et il serait peut-être plus heureux et plus méritoire pour vous d'épouser un homme riche, humain et bienfaisant, qui ferait cultiver nos terres, assainir notre pays, et qui rendrait les habitants heureux en travaillant. Je ne sais pas tout cela, monsieur l'abbé. C'est possible. Et si ça est, Je fais grand cas des bonnes intentions de cet homme-là. Mais je ne peux pas manquer à mon vœu. Je l'ai fait dans la liberté de ma pure volonté. Et vous avez beau dire que puisque les pièces de monnaie me sont venues de 3 messieurs, au lieu de me venir de 3 fades, la cause du vœu est nulle. Je dis, moi, que le vœu reste et qu'on ne peut pas se moquer de ces choses-là.
Dieu ne plaise que je vous conseille de vous en moquer. Les engagements pris avec Dieu et notre conscience sont 1000 fois plus sacrés que ceux qu'on prend avec les hommes. Mais il y a des vœux téméraires que l'Église ne reconnaît pas valables et que Dieu repousse quand la cause est frivole ou coupable.
Coupable, monsieur l'abbé? Quand mon vœu était destiné à rendre heureux tous les pauvres qui sont sur la terre?
Convenez que vous bâtissiez vos engagements sur une erreur, sur une grossière superstition. Votre cœur est admirablement bon, votre intention fut sublime. Mais votre esprit n'est pas éclairé, Jeanne, et vous devez croire que j'en sais un peu plus long que vous sur les cas de conscience.
Pourtant, monsieur l'abbé, quand vous m'avez permis de renouveler mon vœu dans l'église, vous l'avez cru bon.
Et je le crois tel encore. Mais la cause du vœu n'en est pas moins nulle. J'ignorais à cette époque tout ce que je sais maintenant des superstitions touloises. Et vous avez, vous autres, une manière de vous confesser par métaphore qui fait qu'on croit que vous parlez du bon Dieu quand vous parlez quelquefois du diable.
Oh non, monsieur l'abbé, dit Jeanne un peu fâchée, je ne rends pas de culte au diable.
Je ne dis pas cela, ma bonne Jeanne, mais je dis que l'Église pourrait maintenant vous relever de tous vos vœux.
L'Église, monsieur l'abbé? L'Église de tout le Sainte-Croix?
Non, mon enfant, l'Église de Rome.
Jeanne baissa les yeux d'un air soumis. Elle avait bien entendu parler de l'Église romaine à son curé, mais, comme chez tous les paysans, ces mots ne présentaient à son esprit d'autre sens que celui d'un bel édifice, objet de dévotion particulière, où les riches seuls pouvaient aller en pèlerinage.
« Je crois bien la vertu de l'Église de Rome, » dit-elle. « Mais quoi que ça, il n'y a pas d'Église qui soit plus que Dieu. »
Le curé essaya de se faire comprendre. Il parla du pape. Les paysans entendent aussi quelquefois parler du pape. Ils l'appellent le grand prêtre. Et Jeanne ne pouvait s'habituer à l'appeler autrement.
Ce n'est pas au grand prêtre, pas plus qu'à l'église de Rome ou à celle de Saint-Martial de Toul que j'ai fait mes promesses, dit-elle. C'est au bon Dieu du ciel, à la grande Vierge et à ma chère défunte mère. Celle-là ne disait pas toujours comme vous, monsieur l'abbé. Et sur l'article des vœux, elle me disait tous les jours que c'était pour ma vie, et qu'il serait plus heureux pour moi de mourir que de me trahir.
Le curé parla encore du chef de l'Église, du successeur des apôtres qui a reçu les clés du ciel et le pouvoir de délier les âmes sur la terre. Jeanne fut étonnée, un peu scandalisée même, malgré elle, du pouvoir que monsieur Alain attribuait à un homme.
Tout ça ne fera pas, dit-elle, que je n'ai pas juré sur la pierre d'Epnel, pendant que le corps de ma pauvre défunte était là et que notre maison achevait de brûler. De ne jamais manquer à mes vœux, de ne jamais me marier et de ne jamais tant seulement embrasser un homme par amour. Vous voyez bien, monsieur l'abbé, que l'âme de ma mère viendrait me faire des reproches, que la grande Vierge me retirerait son amitié, et que le bon Dieu me punirait. Ce qui est fait, on n'y peut rien changer, et c'est inutile d'y penser.
Rien ne put ébranler la résolution saintement fanatique de Jeanne. Et monsieur Alain, qui l'interrogeait plus encore pour l'éprouver que pour la convaincre, revint d'auprès d'elle, pénétré d'une admiration qu'il communiqua à ses jeunes amis, mais qui n'empêcha pas Sir Arthur de tomber dans une profonde tristesse. Il s'approcha de Jeanne, attacha sur elle un regard douloureux, et s'éloigna sans lui dire un mot, résolu à respecter sa foi et à vaincre son propre amour, s'il en avait la force. Le curé vint prendre congé de madame de Boussac, qui, ne sachant point le vrai motif de sa visite, l'avait trouvé très amusant et très original. Elle essaya de le pousser encore un peu sur les étymologies, mais personne ne la seconda plus. L'espérance avait donné, une heure auparavant, de la gaieté aux amis de Jeanne. Il faisait maintenant de vains efforts pour sourire. Monsieur Alain allait se retirer, et déjà on lui amenait son cheval devant la porte, lorsque Marie monta à sa chambre pour prendre un livre qu'elle lui avait promis. Elle trouva Jeanne, à genoux, sur son prie-Dieu, pâle comme la Vierge d'Albâtre qui recevait sa prière, les yeux ouverts et comme décolorés, les mains jointes et le corps raide et penché en avant. La fixité de son regard et de son attitude épouvanta mademoiselle de Boussac. « Jeanne ! » s'écria-t-elle. « Qu'as-tu ? Réponds-moi ! À quoi penses-tu ? Es-tu malade ? Ne m'entends-tu pas ?» Jeanne resta immobile, les lèvres entr'ouvertes. Marie la toucha, elle était glacée, et ses membres étaient raides comme ceux d'une statue. Au cri de mademoiselle de Boussac, tout le monde accourut. On crut d'abord que Jeanne était morte. Le médecin n'était pas loin, il fit une seconde saignée, et Jeanne reprit ses esprits. Mais elle fit signe qu'elle voulait parler bas au curé. Et comme on l'engageait à ne pas parler encore parce qu'elle était trop faible, elle dit d'une voix éteinte « Ça m'est commandé d'en haut !» Quand tout le monde se fut éloigné, Jeanne dit à monsieur Alain de cette voix si faible qu'il avait peine à l'entendre « Je me sens malade, et je pourrais bien en mourir. Je veux donc vous faire ma confession, monsieur l'abbé, du moins mal que je pourrais. Vous savez, cet Anglais, où est-il ? Eh bien, j'y pensais un peu trop souvent. »
« Malgré vous, sans doute, ma fille. »
« Oh, bien sûr, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et depuis hier surtout, toute la nuit je l'avais devant les yeux. Est-ce un péché mortel, monsieur le curé ? »
Non, sans doute, mon enfant, ce n'est même pas un péché, puisque c'est une préoccupation involontaire.
Mais encore tout à l'heure, dans le pré, en vous parlant, j'avais comme du regret d'être obligée de garder mon vœu. Ce n'est pas que j'aurais voulu être mariée, je n'ai jamais pensé à ça. Mais ça me faisait de la peine de faire tant de peine à ce monsieur qui est si bon.
« Eh bien, Jeanne, croyez-vous que je doive faire des démarches auprès du Saint-Père pour obtenir la rupture de vos vœux ?»«
Oh, jamais, monsieur l'abbé. D'ailleurs, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mettre mon âme en paix. Ma chère amie qui est dans le ciel me reprocherait, j'en suis sûre, d'avoir des sentiments pour un Anglais. Et j'ai honte d'être si faible. Mais quand il m'a regardée dans le pré, comme pour me dire adieu, « ça m'a fendu le cœur. Il faut que vous me donniez l'absolution pour ça, monsieur l'abbé. »
« Avez-vous eu des sentiments du même genre pour quelque autre, Jeanne ?»«
Oh non, monsieur, jamais. J'ai eu du chagrin pour mon parrain, mais ça n'était pas la même chose. Je ne me reproche pas ça. »
« Et pardonnez mes questions, ma fille, mais au moment de vous donner l'absolution, je dois secourir votre mémoire, affaiblie peut-être. Monsieur Léon Marcillat.
Oh, celui-là, dit Jeanne.
Mais elle était trop épuisée pour parler davantage. Elle ne put que sourire, avec une douceur angélique, à laquelle se mêla un peu de la fierté malicieuse de la femme. Le curé lui donna l'absolution, et elle parut s'endormir. Quand elle se réveilla, Marie tenait sa main. Guillaume, pâle et consterné, était à genoux auprès d'elle. Monsieur Harley, debout et immobile, semblait paralysé. Le médecin lui avait dit des mots terribles. « Le cas est grave. Cette jeune fille pourrait bien succomber d'un instant à l'autre. »
Cependant, Jeanne parut se relever de cette crise. Couchée sur le propre lit de sa chère mignonne et soignée par elle, elle paraissait jouir d'un grand calme et assurait ne pas souffrir du tout. « Cela m'étonne, » disait le médecin. « Il faut qu'elle dorme ou qu'elle souffre. » Mais on ne put savoir à quoi s'en tenir. Claudie avait bien expliqué que Jeanne était de ceux qui ne se plaignent pas. Était-elle de ceux qui souffrent? Marie pensait qu'elle était de la nature des anges, qui ne sentent d'autre douleur que la pitié pour les hommes. Après sa confession, Jeanne parut avoir surmonté son regret ou abjuré ses scrupules, car elle regarda M. Harley sans émotion, et en recevant les adieux de M. Alain, qui était forcé de retourner à sa paroisse avant la nuit, elle lui dit qu'elle se sentait l'âme en paix. Vers le coucher du soleil, elle se souleva et fit signe à Cadet et à Claudie de venir auprès d'elle. « Mes enfants, leur dit-elle, si je venais à mourir, vous auriez soin de Finot, pas vrai ?» Cadet ne répondit que par des sanglots. Claudie s'écria du fond de son cœur, « Ne meurs pas, Jeanne, j'aimerais mieux mourir à ta place. »« Oh, je n'ai pas envie de mourir, » dit Jeanne en souriant. « Allez vous en servir le dîner, mes enfants, on l'a bien assez retardé pour moi. »« Mon parrain, ma mignonne, il faut aller dîner, je suis très bien, Dieu merci. Vous viendrez me revoir après, si vous voulez. » « Oui, oui, allez dîner, » dit le médecin qui tenait le bras de Jeanne. « Le pouls est bon, ce ne sera rien aujourd'hui. »« Monsieur Harley, » dit-il à Sir Arthur en le suivant dans le couloir, « avant un quart d'heure, cette fille sera morte. Mademoiselle de Boussac est fort sensible et l'aime beaucoup. Guillaume en est, je crois, fort amoureux. » Ces pauvres enfants sont d'une santé trop délicate pour assister à un pareil spectacle. Emmenez-les, et ne faites semblant de rien, vous qui êtes un homme calme et fort. Ordonnez à Claudie de descendre et de rester en bas. Elle jetterait les hauts cris dans la maison. Et puis, revenez, vous. Il est possible que nous ne soyons pas trop de deux pour contenir la malade dans ses dernières convulsions. M. Harley, la mort dans l'âme, suivit de point en point les indications prudentes du médecin. Lorsqu'il rentra, Cadet, qui était resté avec ce dernier auprès de Jeanne, vint à sa rencontre en riant. « Oh, la Jeanne va bien mieux !» dit-il en frappant ses mains l'une dans l'autre. « La voilà qui chante ! Oh, je suis ti content ! J'avais ben cru qu'elle en mourrait !»« Va-t'en servir le dîner ?» lui cria le médecin. « Tu vois, nous n'avons plus besoin de toi. »« Monsieur Harley, » ajouta-t-il, « fermez les portes et les fenêtres, qu'on n'entende pas cette agonie, et apprêtez-vous à un peu de courage. Ces fins-là sont violentes et affreuses. C'est une commotion cérébrale. La crise se prépare. Ce ne sera pas long. » Le sang-froid terrible du médecin glaçait le malheureux Arthur d'horreur et de désespoir. Jeanne, assise sur son lit, les joues bleuies et les yeux étincelants, caressait son chien et chantait d'une voix forte et vibrante. « Là, où donc est le temps où j'étais sur ma porte, assise dans mon habit blanc ?» Mais le docteur s'était trompé. La fin de Jeanne devait être aussi douce et aussi résignée que sa vie. Sa voix s'adoucit et prit un accent céleste en murmurant ses vers d'une autre chanson du pays. « En traversant les nuages, j'entends chanter ma mort. Sur le bord du rivage, on me regrette encore.
Oh, moi là! Oh, moi là, Finot! Mon petit chien, mon chien Finot! Tranche, tranche, aoulé, aoulé! En sus, vire, vire, vire! »
Que dit-elle, mon Dieu? S'écria M. Harley en joignant les mains. Elle rassemble son troupeau pour partir, elle excite son chien, dit le docteur. Elle se croit au pré, c'est le délire. « Monsieur Harley, je veux vous parler !» dit tout à coup Jeanne d'une voix ferme. « Vous êtes un brave homme, un homme selon Dieu. Ma chère mignonne est un ange du ciel. Je vous commande, de la part du bon Dieu et de la Sainte Vierge, de l'épouser. Et puis, écoutez, vous irez à toute Sainte-Croix, vous assemblerez tous les gens de l'endroit, et vous leur direz de ma part ce que je vais vous dire. » Il y a un trésor dans la terre. Il n'est à personne, il est à tout le monde. Tant qu'un chacun le cherchera pour le prendre et pour le garder à lui tout seul, aucun ne le trouvera. Ceux qui voudront le partager entre tout le monde, ceux-là le trouveront. Et ceux qui feront cela seront plus riches que tout le monde, quand même ils n'auraient que 5 sous. Comme moi, et comme Sainte Thérèse. Vous leur direz cela. C'est la connaissance. La vraie connaissance que ma mère m'a donnée, ou qu'elle m'avait bien commandé de donner à tout le monde quand j'aurais trouvé le trésor. S'ils ne vous écoutent pas, ils pourront encore longtemps chanter la vieille chanson. Dites-moi donc, ma mère, où les Français en sont. Ils sont dans la misère, toujours comme ils étions. La voix de Jeanne avait un timbre céleste, mais elle s'affaiblissait de plus en plus. « Monsieur Harley, dit-elle, attendez, ne partez pas encore. Mettez-moi mon chapelet dans les mains. Y est-il? Je ne le sens pas. J'ai les mains mortes. Vous aimerez, ma chère mignonne, pas vrai? Oh, mon Dieu, voilà la grande fade devant moi. Comme elle est blanche, elle est claire comme le soleil. Elle a le bœuf d'or sous ses pieds. Adieu, mes amis. Adieu, mon cadet. Adieu, ma Claudie. Êtes-vous là? Vous prierez le bon Dieu pour moi. Vous recommanderez ma pauvre tante à mon parrain. Et ma chère mignonne, ah, je la vois. Bonsoir, ma chère demoiselle. Voilà le soleil qui s'en va, et le clocher de Toul qui se montre. M'y voilà arrivé. Dieu merci. » Jeanne étendit le bras et voulut saisir la main de Sir Arthur, qu'elle prenait pour mari. Mais elle l'avait dit, ses mains étaient mortes, et son bras demeura raide, hors du lit. Arthur le couvrit de baisers qu'elle ne sentit pas. Elle avait cessé de vivre. Guillaume, Arthur et Marie, brisés d'abord par la douleur, retrouvèrent leur courage pour aller ensevelir le corps de Jeanne dans le cimetière de Toul, à côté de celui de Tula et des autres parents. Malgré les précautions de Sir Arthur, Guillaume se battit en duel avec Marcilla. Ce dernier, en apprenant la chute et la mort de Jeanne, avait perdu tout son orgueil, et il avait été s'accuser et gémir sincèrement dans le sein de Sir Arthur, qui lui avait tout pardonné, le trouvant bien assez puni par ses remords. Mais Guillaume continuait à être exaspéré contre lui. Sa mère l'avait détrompé en lui disant, pour le consoler de la perte de Jeanne, que cette jeune fille n'était pas et ne pouvait pas être sa sœur. Cette nouvelle révélation ne fit qu'irriter la douleur du jeune homme. Il accusa Madame de Charmoy et Marcilla de la mort de cette chaste victime, et sa fureur contre Léon ne connut plus de bornes. Il le provoqua si amèrement que, malgré la patience et la générosité dont le bouillant avocat fit preuve en cette occasion, il le força de se battre avec lui dans le cromlech des pierres chaumâtres. Marcilla avait fait tout au monde pour éviter cette extrémité. Il avait trop d'avantages sur Guillaume. Et pourtant, celui-ci le blessa grièvement à la cuisse. Marcilla en resta boiteux, ce qui nuisait singulièrement à ses succès auprès des beautés de la ville et de la campagne. Une difformité ou une infirmité, si peu choquante qu'elle soit, est plus répulsive aux paysans qu'une laideur amère jointe à un corps bien constitué. Claudie ressentit l'effet de cette disgrâce de son amant, ou plutôt, lorsqu'elle eut appris ou deviné la véritable cause de la mort de Jeanne, elle ne put jamais pardonner. Marie et Arthur furent longtemps inconsolables.
mais Jeanne avait dicté ses dernières intentions à M. Harlay, qui se fit un devoir de les remplir. Après Jeanne, Marie était pour lui la plus excellente de toutes les femmes. Leur affection pour cette chère défunte forma un lien sacré entre eux. Ils se marièrent un an après sa mort et voyagèrent pendant quelque temps avec Guillaume pour le distraire de sa douleur sombre. Le jeune baron se rétablit enfin et n'épousa point Elvire de Charmoy, qui resta longtemps fille au grand déconfort de sa mère. Guillaume n'était pas sans remords. Il se reprochait amèrement d'avoir aimé Jeanne trop ou trop peu, de n'avoir pas su vaincre à temps sa passion, ou de n'y avoir pas héroïquement cédé, en offrant le premier à sa filleule un amour noble et dévoué comme celui de M. Harlay. « À quelque chose, dit-on, malheur est bon. Cela est vrai, si le repentir nous purifie. » Guillaume en fut un exemple. Il ne fit point d'actions éclatantes. Il resta rêveur et amant de la solitude. Mais il porta dans toutes ses relations avec les hommes, que le préjugé lui rendait inférieur, une charité et une bienveillance à toute épreuve. Il ne fit en cela qu'imiter sa sœur et son beau-frère, dont les idées et les actions généreuses semblèrent d'un siècle en avant du temps misérable et condamné où nous vivons. Marcilla avait reçu une dure leçon. Il se corrigea du libertinage. Mais il avait le fond de l'âme trop égoïste pour ne pas remplacer cette mauvaise passion par une autre. L'ambition politique devint le stimulant de son intelligence et la chimère de sa vie.